France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui,
Serge Zaka, agroclimatologue et chasseur d'orage.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Deux hommes jadis vivaient dans le temps extérieur des intempéries, le paysan et le marin, dont l'emploi du temps dépendait heure par heure de l'état du ciel et des saisons. Nous avons perdu toute mémoire de ce que nous devons à ces deux types d'hommes, des techniques les plus rudimentaires à la plus haute culture. Les anciens Grecs divisaient la terre en deux zones, celle où un même outil passait pour une pelle à grains et celle où les passants reconnaissaient en lui un aviron. Or, ces deux populations disparaissent progressivement de la surface de la terre occidentale, excédant agricole. Vaisseaux de fort tonnage transforment la mer et le sol en désert. Ne vivant plus qu'à l'intérieur, plongés exclusivement dans le premier temps, nos contemporains, n'habitant plus que les villes, ne se servent ni de pelle ni de rame, puis jamais n'en virent. Indifférents au climat, sauf pendant leurs vacances, où ils retrouvent de façon arcadienne et pataude le monde, ils polluent, naïfs, ceux qu'ils ne connaissent pas, qui rarement les blessent et jamais ne les concernent. Michel Serres, extrait du Contrat naturel, en 1990. Bonjour Serge Zaka.
Bonjour à tous.
Lorsque Michel Serres parlait du temps extérieur des intempéries qui réglait la vie du paysan et du marin, qu'est-ce que ça évoque pour vous, agroclimatologue ?
C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il faut savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, les agriculteurs, et notamment le système agricole, a pensé qu'il pourrait maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. Que ce soit la fertilité, que ce soit la génétique. Alors il peut potentiellement maîtriser la fertilité et la génétique. On a vu quelques avancées, quelques progressions, avec peut-être quelques inconvénients. Maintenant, par contre, il n'a jamais su dompter le climat. Il est toujours dépendant du climat. Et avec les assauts climatiques, c'est vrai qu'on a eu une période de stabilité climatique depuis la Seconde Guerre mondiale, où on avait quelques accidents. On retrouve par exemple la sécheresse de 1976, quelques gels tardifs, quelques excès d'eau également, mais qui n'étaient pas trop répétés dans le siècle. Maintenant, depuis les années 2000, et surtout depuis 2020, on a des intempéries. Tous les ans, l'homme n'arrivera jamais à maîtriser le climat.
Serres dit que nous avons perdu toute mémoire de ce que nous devons aux paysans et aux marins. Est-ce que nous sommes dans une civilisation aujourd'hui totalement déconnectée justement de ce monde paysan ?
Ah mais totalement, c'est une certitude. Quand vous regardez d'ailleurs, depuis 1945, on a eu une évolution de plus en plus de la population qui s'est déplacée dans les villes. C'est-à-dire que les lieux de production, les campagnes sont de plus en plus distants en termes temporels et en termes physiques, même des lieux de consommation, les villes. Et d'ailleurs, ma génération, hein, j'ai 36 ans, ma génération, c'est la première génération des êtres humains dont aucun parent ne peut, par exemple, travailler la terre ou travailler l'agriculture. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des personnes qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes, qui n'ont aucune connaissance, ne serait-ce que de la saisonnalité agricole, ne serait-ce que de la production agricole. La seule façon dont ils ont accès à ces données-là, c'est soit sur les réseaux sociaux, soit dans les infos, ou soit dans les étals de magasins qui sont complets. On a perdu la notion, ne serait-ce que de souveraineté alimentaire. On a l'impression que nos magasins seront complets tout le temps, quels que soient les événements climatiques et quelle que soit la mondialisation.
Et il y a un enjeu pour nos sociétés et nos générations, justement, à nous rapprocher précisément aussi à la fois du monde rural et des agriculteurs et agricultrices.
C'est même pas de se rapprocher, c'est de ne pas s'en éloigner. Parce qu'en fait, on s'en éloigne de plus en plus. Ne serait-ce que de voir les applications qui ramènent la nourriture à domicile. Avant, on ne savait pas d'où venait la nourriture, maintenant, on ne sait même plus comment elle est cuisinée. On ne sait même pas d'où elle vient et comment elle est cuisinée. Donc on a l'impression que manger est devenu quelque chose de vital, plus que quelque chose d'un plaisir plus que quelque chose donc de connaître d'où vient notre production agricole. Donc il est nécessaire, nous, en tant qu'êtres humains, de comprendre que la production agricole, ça ne vient pas du ciel et ça demande beaucoup, beaucoup de travail et de compréhension du système, ne serait-ce qu'écologique et aussi climatique.
C'est quoi un agroclimatologue, justement ?
Un agroclimatologue, c'est une personne qui travaille, donc généralement un scientifique, hein, qui travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Alors, il y a deux voies, hein. L'agrométéorologie, donc météo court terme, Une canicule est prévue dans la semaine, comment je protège mes animaux d'élevage, par exemple. Du gel sur fleurs est prévu dans la semaine, comment je protège mes pommiers, mes poiriers. Ça, c'est du court terme, c'est de la protection agricole avec la culture qui est en cours. Par contre, l'agroclimatologie, c'est une autre voie beaucoup plus longue, le climat sur l'agriculture. En gros, est-ce qu'on aura des oliviers du côté de Bordeaux d'ici 2070? Est-ce qu'il faut investir dans des nouveaux bâtiments d'élevage qui soient plus brumisés, ventilés pour les fortes chaleurs? Est-ce qu'il faut implanter des arbres dans les pâtures ou des nouvelles parcelles de kaki ou de grenadiers dans le Languedoc?
Donc ça, c'est votre boulot, ça?
Ça, c'est mon boulot,
Et paradoxalement, vous êtes fait connaître avec plutôt une action autour de la météo, hein, en prévenant justement d'un épisode de gel.
Exactement, en réalité, en 2021, et d'ailleurs ça se reproduit en 2026 au passage, on a eu un épisode de faux printemps, période de douceur hivernale qui réveille les végétaux.
Là où nous sommes en ce moment.
C'est exactement ce qu'on a en ce moment. Hein. Et donc en mars, on a eu des floraisons extrêmement précoces. Bon, maintenant ça a commencé en février, en 2026, c'est encore pire. Et on a eu une période de gel assez importante. En avril. Le gel d'avril reste quelque chose de classique, dans un climat classique français avant les années 2000, sauf que cette fois-ci, on avait des floraisons qui étaient mises en place à cause de la douceur, et donc des pertes de rendement massives. Là, c'est de l'agrométéorologie, et effectivement, en 2021, on a pu prévoir cet épisode climatique catastrophique à 10 jours à l'avance, ce qui a permis une protection agricole accrue, mais aussi ça n'a pas permis de se dégager tous les problématiques de pertes de rendement.
Ouais, donc vous vous mêlez de météo aussi, de temps en temps.
Ah, tout à fait. Sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, je parle beaucoup de météo.
Il n'y a pas que la question longue du climat.
Beaucoup de météo, oui, il y a les deux en fait. Il y a les deux, c'est les mêmes réactions en fait de la plante face aux éléments climatiques, sauf que pour le climat, on va étudier des séries climatiques plutôt longues jusqu'en 2100, alors que pour la météo, on va regarder plutôt sur 7 jours. Mais en réalité, ce sont les mêmes connaissances d'impact sur la plante.
Et donc, il faut s'attendre cette année encore à ce qui s'est passé en 2021 avec des épisodes de gel?
Alors pour l'instant, on commence avec un faux printemps. Là, on l'a remarqué, on a eu des records de chaleur fin février, on a du 20 degrés à Paris encore aujourd'hui, ça fait 10 jours. On a la plus longue série climatique depuis le début des mesures au-dessus des normales de saison, 54 jours aujourd'hui. Ça veut dire que oui, le faux printemps est installé, la floraison est déjà en cours, la sève remonte déjà dans la plupart des végétaux.
Et ça, c'est pas une bonne nouvelle finalement?
Oui ou non, en fait ça dépend s'il y a du gel derrière. S'il y a du gel derrière... Eh ben, on aura des pertes de rendement qui seront catastrophiques, parce que nos végétaux qui avancent dans ces floraisons sont de plus en plus sensibles en fait, au gel plus on avance dans le printemps.
Donc là, c'est trop tôt pour le dire.
Là, c'est trop tôt pour le dire. Ouais. Si, les 10 prochains jours, il n'y a pas de gel qui sont entamés. Il faut savoir qu'on a des risques de gel jusqu'au sein de glace, le 11 à peu près mai en France. Donc on a forcément une très forte probabilité qu'à un moment, il y a un gel qui revient quelque part en France.
Serge Zaka, agroclimatologue, vous êtes nombreux à exercer ce métier en France?
Alors, on n'est pas très nombreux. Non, on a quelques collègues du côté de l'INRA d'Avignon, dans l'unité agroclim, notamment Iñaki et Marie Launay, qui travaillent sur ces sujets. On a M. Berthomieux, qui travaille dans le sud-ouest de la France. On a le CRC, on a Thierry Castel, par exemple.
Oui, mais ça se compte sur les doigts
de demain,
quasiment.
Je suis en train de les citer pour vous montrer qu'en fait, on peut les citer dans une liste. Après, on retrouve pas mal de personnes qui vont travailler sur le climat, mais ce ne sera pas leur cœur de métier. Voilà, des impacts sur l'écologie, des impacts sur l'agriculture, sur les forêts, mais ce n'est pas totalement leur cœur de métier. Ça rentre dans un projet de recherche où on a des données climatiques qui peuvent venir dans ce projet de recherche. Mais en concentré agroclimatologie, on est très peu nombreux, simplement dans les études, les grandes études d'ingénieurs ou autres, on n'a pas de formation, on n'a pas de spécialisation directement d'agroclimatologie. Il faut faire une thèse en réalité derrière, travailler dans des centres de recherche pour se spécialiser sur ce sujet.
Donc vous êtes très peu nombreux et encore moins à l'exercer avec un chapeau de cow-boy sur la tête. On en reparlera tout à l'heure, Serge Zaka, parce que c'est vraiment votre signe distinctif. Vous êtes né au Liban en 1989. Depuis là, le déclenchement de la guerre en Iran, le 28 février dernier, le conflit s'étend progressivement à l'ensemble du Moyen-Orient et notamment dans votre pays, le Liban. Qu'est-ce que vous ressentez-vous en ce moment alors que le Liban, encore une fois, est sous les bombes? Vous êtes né vous-même sous les bombes?
Tout à fait, je suis né pendant la guerre du Golfe durant l'année 89, la guerre civile du Liban durant l'année 89 et j'ai immigré en France à l'âge de 2 ans. Je suis arrivé en France, on ne connaissait pas forcément le système français, on s'est très rapidement intégré, mes parents sont dits ouvriers, donc manuels, ma mère était infirmière, mon père est toujours mécanicien, donc ils sont arrivés en France sans rien. En fait, ce qui se passe au Liban, ça aurait pu être mes enfants. Donc, voilà. J'ai envie de dire, même 35 ans après, même si je ne suis plus au Liban, ça me touche toujours.
Vous avez de la famille encore sur place?
Ça me touche toujours, j'ai toute ma famille sur place. Ce n'est pas forcément dans les quartiers qui sont impactés, c'est plutôt les quartiers musulmans. Mais de toute façon, qu'on soit chrétien ou musulman, on est un même peuple au Liban, vous savez. Qu'on soit même juif, chrétien ou musulman, on est un même peuple. Et c'est pas le peuple qui demande ce qui se passe, c'est plutôt nos dirigeants. C'est plutôt les dirigeants. Le peuple ne demande rien, en réalité. Il demande juste à vivre en paix.
Ça suscite quoi chez vous, de la colère ?
Je sais pas si on a dépassé le stade de la colère depuis un moment. On est plutôt au stade de la résignation. Vous savez, quand je reçois mes SMS tous les matins de mes collègues ou des amis qui vivent en France, où je demande des nouvelles de leur famille, ils me disent, si on meurt, on meurt. On est arrivé à ce niveau-là au Liban. C'est-à-dire de se dire, c'est peut-être que Dieu voulait qu'on meure, c'est ce qu'ils me disent, on est mort, et ça fait partie de notre histoire. Et vous vous rendez compte qu'on arrive tous les matins à se dire, je suis encore vivant, tous les soirs je reçois des SMS, aujourd'hui tout va bien, je suis encore là. Et est-ce que c'est normal de recevoir des SMS comme ça ? Enfin, je pense pas. Alors nous, on habite à 10 km des zones où les bombes tombent, c'est-à-dire que c'est comme si les bombes tombaient à la frontière, à l'autre bout de Paris, à Vincennes, quoi. Et les gens me disent, je vais au travail, je vis normalement, enfin du moins j'essaye, et je trouve ça assez dramatique de se dire que des gens essayent de vivre normalement malgré ce qui se passe, quoi. Comme si c'était devenu une habitude, comme si c'était comme le RER était en retard, quoi, ou que le métro a eu une panne. Ça faisait partie de leur quotidien, je trouve ça pas normal d'en arriver à là dans un équilibre de vie, et je pense un peu à mes cousins aussi, qui est mon âge, ou alors qui sont plus jeunes, les enfants de mes cousins, qui trouvent ça normal d'aller à l'école avec le bruit des bombes à l'horizon, quoi. On en arrive à là, au Liban, oui. Qu'on soit chrétien, musulman, ou même dans le pays voisin, les juifs, c'est exactement pareil, en réalité. Il y a des personnes, des juifs, qui vivent en Israël, et qui ne demandent que la paix, comme nous, peuple libanais. C'est un problème entre les dirigeants. C'est pas un problème entre les peuples. C'est un problème entre les dirigeants, et si vous remarquez, ce sont des dirigeants qui sont généralement très âgés, qui ont plus de 70 ans, et ce sont que des hommes. J'aimerais bien que dans ces pays-là, on mette des femmes aussi aux têtes de ces gouvernements, et qu'on puisse un peu apporter de sérénité, un petit peu de vision pour la famille, un petit peu de vision pour les enfants. Voilà, ça aurait pu être moi, voilà ce que ça me procure, même si je vais au Liban de temps en temps pour voir ma famille. J'évite de prendre l'avion tous les ans, j'y vais. De toute façon, je ne peux pas y aller tous les ans. Parce qu'en réalité, la situation ne me permet pas d'y aller tous les ans. Voilà, j'ai encore 90% de ma famille qui est là-bas, donc je pense à eux aujourd'hui. Moi, je suis à Paris, mais en réalité, mon cœur est plutôt là-bas.
Vous avez quitté le Liban, vous aviez 2 ans, hein, c'est ce que vous dites. Ça veut dire que vous n'avez aucun souvenir des bombes, en l'occurrence,
ou alors, j'ai quelques souvenirs.
Quelques parcelles, quand même.
J'ai des souvenirs. J'ai un souvenir notamment d'une journée où, vous savez, nous, on était rythmés aux alertes des bombes. Quand j'étais plus jeune, et moi je regardais ça tomber par la fenêtre. J'ai ce souvenir-là où ma mère me cherchait, moi j'étais caché derrière le rideau à regarder les bombes tomber par la fenêtre. Il fallait descendre au plus bas de l'appartement, en sous-sol. J'ai vécu notamment mes premières années de vie à moitié dans une usine à mouchoirs qui était en fond de vallée. Du coup, c'est là où il y avait le moins de probabilité que les bombes tombent. Et mon premier berceau était un carton avec des roues que mon père avait mis pour éviter que les rats rentrent dans mon landau qui était un carton de mouchoirs en réalité. J'en suis loin aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Et je me dis que ici on n'a pas les mêmes problématiques. Voilà, on n'a pas les mêmes problématiques. Moi, ma mère allait au travail, elle était infirmière de guerre, donc elle allait au travail sous les bombes. Donc elle prenait le bus, il y avait des bombes qui tombaient aussi. Elle ne savait pas si elle allait revenir à la maison le soir. Et nous, en France, on se plaint quand le bus est simplement en retard. Voilà, donc ça relative un petit peu aussi sur... cette société du matérialisme, cette société du bonheur, qu'est-ce qu'on veut en fait ? Est-ce qu'on veut le bonheur dans la famille ? Est-ce qu'on veut le bonheur dans les personnes qui nous entourent ? Est-ce qu'on veut le bonheur dans le matériel qu'on peut avoir ?
Vos parents racontent que vous étiez hypnotisé par le ciel, alors au Liban et en France aussi, dès votre plus jeune âge. Hypnotisé par le ciel, comment vous l'expliquez, vous, ça ?
Alors, je ne sais pas trop. Lorsqu'on a écrit ma biographie, donc Orage sur le climat chez HarperCollins, on a eu pas mal de questions. J'ai eu 14 heures d'interview pour pouvoir un petit peu défricher toute cette jeunesse que j'ai vécue. Et dans cette jeunesse, on est revenu à cet événement de bombes qui tombaient dans mon village, avec donc forcément les bruits des bombes. Et on s'est demandé si justement ne regarder le ciel. Moi, je me rappelle qu'à 5 ans, j'ai mes premiers souvenirs quand je suis arrivé en France. J'ai découvert la neige d'ailleurs en arrivant en France. Ouais. Et j'ai découvert j'avais une vision un petit peu dégagée depuis la fenêtre de ma chambre, et j'avais vu sur les orages, et je voyais ces orages qui tombaient, ces éclairs qui tombaient, qui faisaient le bruit des bombes, mais c'était beaucoup plus beau et rassurant, on va dire, que les bombes de la guerre du Liban. Et donc on s'est demandé s'il n'y avait pas un aspect d'enjoliver cette guerre en cette fois-ci devenant chasseur d'orage et en photographiant ces bombes qui représentaient en fait les éclairs pour pouvoir les rendre plus beaux et plus visuels et de rendre la nature aussi plus belle et plus acceptable par l'homme.
Car les orages font aussi partie de votre vie. Vous êtes présenté tout à l'heure comme agroclimatologue et chasseur d'orages. On va en parler dans un instant, Serge Zaka, puisque vous êtes aujourd'hui notre invité au carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Attends, rentre chez toi et attends que je t'appelle.
Mais ce Stetson, ce chapeau grotesque, sans blague, combien de fois t'ai-je dit de pas porter ce fichu Stetson ici? Combien?
Les clients en portent presque tous.
Je suis pas le boss de ces foutus clients de merde, mais par contre, je suis ton boss. Et moi, je t'ordonne de laisser ton chapeau de cutéreux chez toi. Est-ce que t'as compris?
Extrait de Kill Bill 2 de Quentin Tarantino. Serge Zaka, l'agroclimatologue au chapeau de cow-boy, est notre invité au carré. Bon, on va tout de suite aborder le dossier chapeau, comme ça ce sera fait. Comment est-ce qu'il est arrivé sur votre tête, ce chapeau de cow-boy?
C'est alors effectivement un Stetson, d'ailleurs.
Qui est devenu votre signature.
C'est un Stetson importé du Texas.
Avec une magnifique plume de paon.
Il y en a plusieurs, ouais. Il y a beaucoup de plumes que d'ailleurs ce sont des personnes qui ont suivi des conférences que je fais et qui me les ont offertes. Toutes les plumes ici, sont des fans, comme ils se décrivent, qui me les ont offertes. Alors ce chapeau, il a une histoire quand même. Parce que je suis allé pendant mes études au Canada, donc on avait un stage obligatoire à l'étranger. Mmh. Je suis allé au Canada travailler dans les vins de glace. Ce sont des vins qu'on récolte après les premières gelées, il doit faire moins 10, moins 15 d'ailleurs, pour pouvoir concentrer le sucre dans les grappes et faire des vins très doux, très sucré. Et donc nous, on faisait des mesures sur la sécheresse, donc dans ces vignobles, en plein été. Et on avait l'obligation, pendant les canicules, au-dessus de 30 degrés, de porter un chapeau pour se protéger, pour notamment les ouvriers agricoles, dans les parcelles. Et donc on m'a prêté un chapeau de cow-boy, et je suis rentré du Canada avec un chapeau de cow-boy pour garder ce souvenir. Alors ça, c'est de l'histoire, la réelle.
Et il ne vous a plus jamais quitté.
C'est la réelle histoire. Ouais. Non, il ne m'a plus jamais quitté. J'en ai acheté plusieurs, d'ailleurs, depuis, c'est toujours le même modèle. Ouais. Et puis l'histoire un petit peu off, c'est que certaines personnes sont venues voir, encore après des conférences, et ils m'ont dit, je trouve ça intéressant votre chapeau, parce que ça relié à la fois votre côté aventurier, chasseur d'orage, le chasseur d'orage c'est très américain également, et puis le côté cow-boy sur l'agriculture, donc ça, c'est vrai que ça a réuni plusieurs de mes passions en un... Et ça fait 15 ans que je l'ai, ça fait 15 ans, je ne le mets pas pour passer sur la terre au carré, ça fait 15 ans que je l'ai depuis que j'ai à peu près 20 ans, même avant j'avais quelques chapeaux déjà.
Voilà, on a quelques photos en story sur Instagram de Serge Zaka, là, dans la loge, avec son chapeau, mais sans son chapeau aussi.
Exactement.
On a réussi à vous photographier sans votre chapeau de cow-boy. Est-ce que c'est bien sérieux de porter un chapeau de cow-boy sur la tête lorsqu'on est un scientifique, Serge Zaka?
Eh bien, pourquoi pas? Je considère que les scientifiques... ce sont des personnes comme les autres. Ce ne sont pas des personnes dans leur tour d'ivoire qui doivent forcément être en blouse, un petit peu quand on les voit dans les films catastrophes de fin du monde, quoi. Non, les scientifiques, ils sont des personnes tout à fait vivantes et des personnes de la société comme tout le monde. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de cet accessoire que j'ai par ma personnalité, ce n'est pas un accessoire de marketing, on essaie de le détourner sur du marketing pour dire que c'est pour me pavaner sur les réseaux sociaux ou alors sur les plateaux télé. C'est vrai que ça attire l'œil dans la rue, les gens me reconnaissent comme ça. Mais en réalité, c'est juste que j'ai envie d'être comme je suis, avec mes bracelets, avec mon Marcel et avec mon chapeau. Et ce qu'on pense de moi, je m'en fous.
Est-ce que vous avez une fascination pour les États-Unis? Parce que vous parliez justement des orages et des cow-boys.
Alors, à part les tornades. Ouais. Les tornades, parce qu'on a les fameux chasseurs de tornades en Amérique, sur Twister notamment. Je n'ai aucune fascination pour les États-Unis. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les produits de terroir, les beaux paysages français et européens au final. Parce qu'on a aussi des produits de terroir dans les autres pays du monde. Et en Amérique, je ne retrouve pas cette... Quand je vais dans une ville, j'ai l'impression que c'est déshumanisé. Je ne retrouve pas ce côté imparfait qu'on peut avoir dans les villes européennes où tout n'est pas droit, tout est différent. On a des petits restaurants à droite à gauche, des produits à OCI, GP, une identité de territoire. En Amérique, j'ai l'impression que tout est artificiel. Donc non, je ne me reconnais pas dans l'Amérique.
Allez, on va écouter justement, puisque vous l'avez évoqué, un extrait de Twister.
Julia, vous êtes bouleversée. Vous avez besoin de respirer. Moi aussi, j'ai besoin de respirer. quitte, Julia, on a des vaches. Oh, une autre vache.
En réalité, je pense que c'était la même. Ce sont des tornades ivres, on n'a pas de traces de passage.
C'est pas bon, sors-nous de là.
J'essaie.
Fonce.
Voilà, la scène mythique de la vache quand même, hein, Twister 1996. Ce film, il est dans votre panthéon personnel, Serge Zaka ?
Ouais. Bien sûr, d'ailleurs, le Twister 2, la personne principale, le personnage principal, porte un chapeau de cow-boy, est exactement d'ailleurs le même que le mien.
Et ça tient sur la tête même pendant une tornade ?
C'est un des défauts du film. Par exemple, une vache qui vole en plein milieu d'une tornade, normalement, ou alors une demande en mariage en plein milieu d'une tornade, ou une scène d'amour en plein milieu d'une tornade accrochée à un tuyau, comme on peut le voir à la fin de Twister 1, ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, les vaches et les humains sont transpercés par des objets volants pendant les tornades. Ouais. Donc c'est vraiment une partie hollywoodienne du film. Par contre, il est vrai que dans ces films-là, ces deux films, Twister 1 et 2, on a des images radar qui sont tout à fait correct et qui représente bien les tornades. Après, on a quelques ciels qui peuvent être aussi révélateurs d'une tornade. Il y a encore du progrès à faire, bien sûr, sur l'aspect scientifique, mais ça reste plutôt correct.
Mais alors, chasseur de tornades en France, vous emmerdez pas trop, ça va ? Il y a de quoi faire ou...
On dit plutôt chasseur d'orage en France, parce que les tornades, elles sont beaucoup moins fréquentes. Bah, on en a vu quelques-unes. Alors, elles sont beaucoup plus fréquentes qu'on le pense, d'ailleurs. Il y en a plusieurs centaines par an dans les régions, voire dizaines, voire centaines de tornades, mais elles sont extrêmement faibles, voire passent inaperçu. Donc on n'a pas forcément les tornades à prendre en photo, mais nous, les chasseurs d'orages européens, on cherche plutôt les beaux paysages, la mise en valeur d'un paysage, d'une cascade, d'un petit village, d'une falaise par exemple autour du Pic Saint-Loup ou dans l'Aveyron, là où je chasse régulièrement, avec de beaux ciels,
donc,
de beaux cieux et des orages.
C'est de faire une photo en fait
C'est de faire une belle photo, voilà, c'est souvent comme ça. Après, il y a tout un aspect scientifique, donc de report d'observation de terrain, les grêlons géants, les inondations éclairs, les rafales de vent, les tornades, qui peuvent passer dans les mailles du filet des stations météorologiques. On n'en a pas non plus partout dans toute la France. Et donc, il y a un rôle d'observateur et d'archive en fait, de catégorisation de ces puissances d'orage en fonction du coup d'archives climatiques des orages. On a l'association infoclimat.fr qui travaille sur le sujet et kéronos.org qui travaille sur le sujet.
Et alors, il paraît que vous habitez dans l'Hérault parce que statistiquement, c'est l'un des départements où il y a le plus d'orages. C'est vrai, ça ?
Je crois que vous connaissez beaucoup d'aspects de ma vie, non ?
Bah écoutez, vous en avez parlé vous-même. Hein. Moi, j'invente rien.
Effectivement, oui. C'est effectivement le cas. À la sortie de ma thèse, j'avais plusieurs propositions de travail, dans plusieurs régions de France. Et j'ai choisi l'endroit où il y avait le plus de densité de foudre au kilomètre carré. Ouais. C'est forcément tombé au pied des Cévennes, très célèbres pour leurs épisodes Cévenol.
Et vos enfants sont nés en hiver, parce que même chose, c'est une période qui est plus calme pour les orages.
Mariage et enfants, c'est plutôt en hiver, puisque il y a de très fortes probabilités que je ne sois pas là à l'accouchement si jamais il y a un orage. Donc on s'est mis d'accord.
Mais tout
c'est
a été
hiver.
Prévu.
Ouais. Tout est prévu.
C'est vraiment...
D'ailleurs, mes conférences, je n'en fais pas ou très peu en juillet, août, pour pouvoir me consacrer aux orages. Les vacances se font dans des régions orageuses aux dames de ma femme qui aime bien la Bretagne.
Ouais.
Région la moins orageuse de France, donc on n'y va jamais.
Avec
en été.
Alors, vous y allez quand même, vous ne la privez pas d'aller en
de
Bretagne.
De temps en temps, on y va, si on peut y aller, sur des périodes où ce n'est pas très orageux, dans d'autres régions de France.
L'agroclimatologie, en fait, vous avez choisi ça comment, Serge Zaka ?
Je suis passionné par ça. Je suis passionné.
Non, mais comment on se passionne pour une discipline qui n'est absolument pas connue, quand même, au départ ?
Alors, elle n'est pas connue par le grand public, du moins pas trop. Maintenant, elle est un petit peu plus connue. Mais elle est très connue dans les centres de recherche. Un agroclimatologue, on sait très bien de quoi ça parle dans les centres de recherche. Moi, depuis que je suis petit, je suis passionné par les orages, par la climatologie, par la météorologie, comme on a pu en discuter. Et derrière, j'avais un attrait aussi pour l'écologie, pour les plantes, pour l'environnement, ce qui nous entoure, les forêts. Également, il est vrai que j'ai grandi en région parisienne et ça me manquait un petit peu de travailler sur les végétaux. Quand on a dû se spécialiser à la fin du lycée, par exemple, je voulais pas faire que de la météorologie ou de la climatologie, parce que concentrer que sur un sujet tout le reste de ma vie, c'est un petit peu ennuyant.
Ouais.
Je voulais l'appliquer sur un domaine et je l'ai appliqué du coup à l'agriculture. Donc j'ai fait des études agricoles pour devenir agroclimatologue derrière en faisant une thèse sur le sujet.
Il faut être bon en quoi alors En agro ? En climat ? En mathématiques ?
Alors moi je suis nul en mathématiques, j'ai eu deux au concours
de mathématiques.
Mais
la modélisation, c'est quelque chose.
La modélisation, c'est beaucoup d'algorithmique plutôt.
Donc ils bossent pour vous.
Moi je fais beaucoup de modélisation, oui. Les maths, c'est pas du tout, et je l'assume, c'est pas du tout mon domaine. On peut être pas bon par... on peut avoir quelques lacunes. Hein. On fait être bon en biologie, en compréhension de la physique de l'atmosphère, et être bon aussi en algorithme, en code et en analyse de data. Et en compréhension des écosystèmes aussi, parce que c'est pas décorrélé, c'est pas parce qu'on est devant un écran assez régulièrement qu'on doit être en décorrélation de la réalité économique du terrain et des agriculteurs.
Ouais. On verra que cette discipline, en ce moment, elle a beaucoup à dire, évidemment, sur les différents épisodes climatiques que nous vivons. On va en discuter avec vous dans un instant. Serge Zaka, vous qui êtes notre invité au carré sur France Inter.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
C'était une chaleur qui est tombée d'un coup, là. Et ça avait tout brûlé, les vignes avaient été brûlées à l'arrière, là.
On a peur que ça se reproduise de manière récurrente.
46 degrés à l'ombre le 28 juin 2019. Une canicule dévastatrice pour les cultures, des raisins grillés sur place, 10 000 hectares de vignes sinistrées dans le département. Frédéric, viticulteur, ne s'en est toujours pas remis.
J'ai fait moins 70% en récolte, donc c'est chiffre d'affaires à moins 70%. Hein. Je commence un peu à me remettre financièrement de cette période-là. Depuis le début de l'année, on a dû avoir 350 mm. À mon avis, ouais, ça ne va pas durer. On en est conscient en métal chaque année, il y a un changement climatique. Et puis, il va falloir faire avec. Hein. Il faudra s'adapter. Et ça, c'est certain.
La canicule de 2019 dans l'Hérault, reportage d'M6, Serge Zaka, un épisode qui a été aussi marquant pour vous. C'est 46 degrés le 28 juin 2019. Qu'est-ce que vous êtes dit finalement en voyant ça? Vous vous dites, ben voilà, tout ce qu'on a modélisé déjà, ça, on est en plein dedans là?
Je me suis dit, déjà, maintenant.
Vous avez été surpris?
Ah oui, 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 c'est clair. L'ancien record était de 44 degrés en France, 44,1 parfois. Ouais. Là, c'est 46 degrés, on l'a explosé 2 degrés, en plus en juin.
À l'ombre, hein.
Ouais, c'est à l'ombre, c'était même pas en juillet ni en août, c'est en juin. Et alors, ça m'a beaucoup affecté. En fait, cet épisode-là, climatique, ça m'a poussé à aller au-devant de la scène, notamment pour dire que les éléments scientifiques que nous analysons en centre de recherche ne doivent plus rester en centre de recherche, ils doivent être divulgués au grand public, parce que quand vous avez 46 degrés, c'est dans mon village, hein. Je l'ai vécu, hein. J'étais là, et que tous les arbres ont leurs cimes qui perdent leurs feuilles, les vignes ont complètement brûlé, qu'on avait des animaux morts dans la rue, là on se dit, waouh, en fait c'est vrai qu'on peut adapter l'agriculture jusqu'à 42, 43 degrés, mais en réalité, il faut le dire derrière. Il faut être clair. Après 2050, quand vous regardez le rapport France plus 4 degrés, on atteindra entre 45 et 50 degrés dans plusieurs régions françaises. Ce qui veut dire que ce sera de la mortalité des arbres qu'on
aura.
C'est pas juste de l'adaptation, c'est pas possible.
Il y a des limites infranchissables pour les végétaux.
Des limites biologiques. C'est ce que je veux dire, c'est que le changement climatique, souvent on dit aux agriculteurs, allez, vous allez vous adapter, vous allez mettre des arbres, travailler sur un sol plus vivant, parfois mettre de l'irrigation, parfois mettre des réserves en eau pour l'irrigation. Mais il y a un moment, si vous irriguez du maïs et qu'il fait 47 degrés, le maïs, il est mort. Il faut comprendre que la meilleure façon d'adapter notre agriculture, après 2050 dans le sud et après 2060-70 dans le nord, c'est de limiter les gaz à effet de serre pour éviter ces températures. Ce n'est pas possible de trouver une race de vaches laitières ou alors un arbre qui s'adapte à 50 degrés, ouais, même une seule journée, hein. Ça peut tuer un végétal.
Et ça peut tuer des récoltes entières en un temps record. Hein.
Comme le gel. Quand vous avez un épisode de gel, comme en avril 2021, où on a perdu une grosse partie de la production, moins 59% pour la prune, moins 59% pour la poire de table, en seulement 3 jours. Bah, c'est pareil, en fait, ça s'appelle des stress thermiques. Mais ça, on avait l'habitude des stress thermiques bas, c'est-à-dire le gel. On n'a pas l'habitude des stress thermiques hauts en France. Et c'est la première journée, à l'échelle peut-être de l'histoire de la France, qui nous a dit... Vous êtes vulnérables, que ce soit les vignobles, que ce soit les oliviers, donc les espèces les plus résistantes en France, vous êtes aussi vulnérables. C'est un peu un avant-goût du futur. Et il suffit d'une journée pour qu'on grille les parcelles.
Et un avant-goût du futur proche. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des horizons si lointains que ça.
Eh ben non. En fait, on n'est pas sur des horizons si lointains que ça. Parce que quand vous pensez, par exemple, à un arbre fruitier, un olivier, un pêcher, ou des grenades qu'on essaye de planter pour s'adapter maintenant, ou alors même des clémentines... Bah, pour l'arbre, c'est aujourd'hui qu'on pense à demain, c'est-à-dire que c'est en 2026, qu'on pense à 2050. Une filière agricole, ça se met en place entre 10 et 30 ans sur le territoire également. C'est demain, c'est le temps long, l'agriculture. Ce que j'aimerais que nos politiques comprennent également, c'est qu'on ne pense pas au court terme en tant qu'agriculteur ou en tant que personne du milieu agricole. On pense généralement au long terme. Et 2050, en réalité, pour l'agriculture, c'est demain.
Ouais. Nos dirigeants politiques, justement, ils ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui.
Alors, non.
Sur les prises de décision, justement, non. Qui viseraient précisément à faire en sorte que nos émissions de gaz à effet de serre sont drastiquement moins importantes qu'aujourd'hui.
On a deux voies. Soit on réduit les gaz à effet de serre pour réduire l'impact du changement climatique sur l'agriculture, ou soit on adapte l'agriculture, ça peut se faire aussi en parallèle. Et que ça soit sur l'un ou que sur l'autre, on n'est pas suffisamment, en fait on ne met pas du tout les moyens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois on entend des enveloppes à la télévision, nous avons mis 10 millions d'euros, 300 millions d'euros ici. En fait j'ai l'impression qu'on a une certaine forme de politique du pansement. Quand il y a un événement climatique qui arrive, une sécheresse, un gel, une canicule, ça impacte les agriculteurs de plus en plus fréquemment et de plus en plus intensément. Et moi j'ai l'impression qu'on met des pansements, comme si en donnant des millions, ça allait résoudre le problème. Résoudre le problème, c'est beaucoup plus vaste, c'est une modification complète du système agricole, ne serait-ce que la façon de cultiver, beaucoup moins de travail du sol par exemple, beaucoup plus de couverts végétaux, beaucoup plus d'arbres dans les parcelles, des génétiques, des variétés qui sont plus résistantes, voire même de nouvelles filières qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France. Tout ça, ça demande des moyens, l'agriculteur ne peut pas le faire tout seul, c'est des centaines de milliards d'euros. Et je ne parle même pas des forêts. Les forêts, c'est encore des centaines de milliards d'euros à les adapter à l'échelle européenne. Et quand on parle d'enveloppe de quelques millions, j'ai envie de dire, est-ce qu'on veut vraiment que l'agriculture reste en France avec le changement climatique? Est-ce qu'on veut de la souveraineté alimentaire?
Alors, les paysans, les paysannes, vous les rencontrez régulièrement, Serge Zaka. Mmh. Vous étiez présent d'ailleurs au Salon de l'agriculture. Et on sait aujourd'hui que s'il n'y a pas de changement radical dans le monde de l'agriculture, on fonce droit à la catastrophe. Est-ce que la question climatique aujourd'hui, elle est prise au sérieux justement dans le monde agricole et précisément dans le monde agricole par exemple d'un syndicat comme la FNSEA?
Alors oui, paradoxalement, sur ce qu'on pourrait penser, la FNSEA travaille sur l'impact du changement climatique. Elle est consciente des impacts du changement climatique. Derrière, on n'est pas forcément d'accord sur les solutions à appliquer sur le territoire pour pouvoir adapter l'agriculture. Les jeunes agriculteurs aussi, qui sont comme la FNSEA en plus jeunes, pour simplifier, ils sont plus conscients, par contre, eux, des enjeux, parce qu'ils ont une vision de leur retraite qui est plus lointaine, on va dire, et donc une évolution climatique qui est plus prégnante sur leur territoire. J'étais avec les jeunes agriculteurs hier à Châteauroux, par exemple. On a d'autres syndicats agricoles, comme la Coordination Rurale, où certains dirigeants d'ailleurs de la coordination rurale pensent qu'il n'y a pas de changement climatique. Ouais. Donc là, on est vraiment sur le bas-fond du bas-fond de la science, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'adapter l'agriculture parce qu'il n'y a pas de changement climatique.
Mais vous leur dites quoi alors, justement, aux agriculteurs de la FNSEA, par exemple, qui, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, préfèrent travailler sur des grandes surfaces, en monoculture, c'est pas tellement ce qu'est la mode quand même aujourd'hui, si on veut vraiment faire un vrai changement.
Je leur dis ce qu'il faut leur dire. C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur l'impact du changement climatique, c'est pas seulement l'écosystème, parce que souvent on parle de division entre l'écologie et l'agriculture, alors qu'en réalité on peut réunir les deux pour s'adapter au changement climatique. Alors ce que je leur dis souvent, c'est que ça impacte aussi leur portefeuille. Parce qu'aussi, il faut l'entendre, la rentabilité agricole diminue avec le changement climatique. C'est-à-dire que j'essaye de m'adapter aussi à ce qu'ils veulent entendre.
Donc l'argument financier, il fait mouche, hein ?
L'argument financier fait mouche, c'est-à-dire quand vous avez par exemple des projections de rendement du maïs dans le sud-ouest de la France, qui sont faites par plusieurs scientifiques de façon indépendante, ou par l'Union Européenne, ou par la France d'ailleurs, ou par l'INRA. On a des pertes de rendement qui vont de -20 à -50% pour le maïs, en moyenne, donc des années plus graves, des années meilleures, par rapport au stress thermique et au stress hydrique. Quelle que soit l'adaptation derrière, si on change les dates de semis, si on fait de l'agriculture de conservation des sols, en fait, il faut se projeter en 2050-2070. Le maïs ne sera plus présent de façon aussi rentable, notamment sur les sols superficiels, dans le sud-ouest de la France. Mais alors, qu'il faut réfléchir maintenant à qu'est-ce qu'il faut remplacer sur le territoire. Je ne suis pas en train de dire
mais
que notre agriculture...
Quel discours vous tenez justement en face de ces agriculteurs et agricultrices, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire aujourd'hui, vu l'état d'urgence quand même?
Alors moi je suis très factuel. Je leur donne des cartographies de perte de rendement et des évolutions qu'on pourrait appliquer sur les parcelles, voire des nouvelles productions qu'on peut avoir sur le territoire. Par exemple, je leur dis, le champ de maïs, il peut vous financer la transition dans un certain temps, mais progressivement vous réduisez de quelques pourcentages ce maïs en remplaçant par d'autres espèces sur le territoire.
Pourquoi il faut remplacer le maïs par autre chose?
Parce qu'il est beaucoup trop sensible et beaucoup trop consommateur d'eau pendant les périodes où il y en a moins en réalité, et surtout à partir de 35 degrés par exemple, la pollinisation des grains du maïs ne se fait plus ou beaucoup moins, puisqu'il y a des stress thermique qui s'installe. Souvent on me dit je vais installer l'irrigation, je vais faire une réserve en eau, que ce soit collinaire ou une réserve en eau de nappe phréatique. Je leur dis c'est pas suffisant. C'est une pièce du puzzle dans votre puzzle global, mais il faut absolument travailler sur un sol plus vivant qui retient mieux l'eau également. Voir sur de l'arbre autour des parcelles, pas mettre 15 milliards d'arbres non plus, mais au moins quelques arbres pour limiter le vent, limiter l'évaporation, limiter la transpiration, avoir des variétés de maïs qui soient moins consommatrices d'eau, ou décaler les dates de semis, voir dans un contexte plus extrême, c'est-à-dire après 2050, réfléchir à qu'est-ce qu'on pourra produire à la place du maïs. Parce qu'il est aussi question de rentabilité agricole sur les territoires. Si le maïs, dans un avenir, en 2050, il n'est plus suffisamment rentable, il faut le remplacer par une production qui nourrit aussi les hommes derrière. C'est pas laisser un désert s'installer.
Mais est-ce que
de l'anticiper.
Est-ce que remplacer une plante par une autre, ça va résoudre le problème aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut aller bien au-delà sur les pratiques?
Bien sûr, il faut aller bien... En fait, c'est tout un ensemble, tout est complémentaire. Si vous remplacez, par exemple, un maïs par un sorgho, ça va pas résoudre le problème. En réalité, souvent, on parle du sorgho. Il est effectivement, en science, plus résistant aux fortes chaleurs et à la sécheresse. Mais si vous avez un sol qui est labouré régulièrement, qui a moins de vie, qui retient moins l'eau, le sorgho aussi va subir la sécheresse. Si votre sorgho, vous ne travaillez pas aussi sur l'évolution génétique qu'on peut avoir en Europe par l'INRA ou d'autres instituts de recherche pour améliorer cette productivité du sorgho, ça va pas être accepté sur le territoire. Si vous ne travaillez pas sur la filière. Le sorgho, c'est carrément de la bière de sorgho, des pâtes de sorgho, de la farine de sorgho, voire une modification de l'alimentation animale sur le territoire. Mais il faut travailler aussi sur l'économie de la filière pour donner une acceptabilité économique. C'est juste énorme comme enjeu. C'est pas juste donner quelques millions quand les maïsiculteurs ont perdu du rendement comme en 2022, moins 54% sur les parcelles non irriguées. C'est énorme dans le sud-ouest de la France. Non, c'est des milliards d'euros qu'il faut mettre en place, des investissements, de la recherche pour pouvoir faire face au changement climatique.
Et sur la question des pesticides, par exemple, est-ce que les jeunes agriculteurs aujourd'hui, ils remettent aussi en question ce modèle basé sur les pesticides?
Alors, pas forcément. Et là, ça devient assez problématique pour moi, parce que là, je suis le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que moi, sur les pesticides, j'ai beaucoup moins de connaissances scientifiques. Ce que j'apporte, par contre, par l'agroclimatologie, c'est un modèle agricole, notamment tourné vers le respect des sols, au travers du respect de l'eau dans ces sols et de cette biodiversité. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Et cette agriculture de conservation des sols, en moyenne, elle consomme moins d'intrants, moins de pesticides et moins d'engrais. Elle a juste un principal inconvénient, c'est qu'elle utilise beaucoup d'herbicides. Et donc, on travaille sur des méthodes mécaniques ou d'autres façons de pouvoir réduire ces herbicides-là. En fait, on essaye de réduire la quantité de fertilisants, d'insecticides et d'herbicides sur les territoires. C'est pas facile, c'est un équilibre. Il y a le bio, par exemple, qui peut faire face à cette réduction également de pesticides sur le territoire. La seule problématique du bio, c'est qu'il y a un paradoxe entre l'évolution climatique qui favorise l'apparition des maladies, notamment manque de gel en hiver et printemps chaud, parfois plus humide, et la recherche qu'il y a, l'argent qu'il y a mis dans la recherche derrière pour faire face aux alternatives, notamment aux pesticides, pour le bio. Donc il y a un antagonisme entre l'évolution climatique et le bio. Il va falloir absolument travailler sur la recherche.
Sauf que vous parliez du temps long tout à l'heure. C'est très long de remettre justement une agriculture, un modèle agricole en tout cas, en place. Et là, par rapport à l'urgence qu'il y a, vous dites quoi finalement? Que c'est râpé là pour les 25 ans?
On est très en retard. On est vachement en retard. Je ne pense pas qu'on va pas y arriver. Je disais aux jeunes agriculteurs hier, vous avez les moyens de le faire. Maintenant, il va falloir travailler au niveau politique. En fait, il y a une volonté agricole d'évolution sur le territoire, mais ils attendent une réaction politique. C'est ce que j'ai l'impression. En fait, ils attendent des moyens, parce qu'ils ne peuvent pas le faire face. C'est tellement rapide qu'ils ne peuvent pas y faire face tout seuls. Je pense que si on a une conjonction politique sur une vision sur la souveraineté alimentaire française, et puis les agriculteurs, ils peuvent travailler main dans la main, à la fois sur le changement climatique, et aussi, il va falloir comprendre, parce que le changement climatique, ça, ils le comprennent. C'est mon domaine, ils le comprennent. Sur l'écologie, il faut comprendre aussi qu'en travaillant sur l'écologie, c'est pas antagoniste de travailler sur une agriculture qui nourrit et une agriculture qui soit aussi imbriquée dans l'écologie.
Sauf qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui essayent de faire qui ont essayé d'avoir des pratiques plus vertueuses et qui sont pas très très bien financées quand même par rapport à d'autres qui ont des pratiques beaucoup plus délétères.
Il y a une évolution de ce que c'est le métier. Il va falloir travailler sur cette évolution de ce qu'on se représente du milieu de l'agriculteur. Par exemple, il n'est pas juste là pour nous nourrir. Il est là aussi, et il le fait déjà, pour des services écosystémiques. L'implantation des haies, la réimplantation des arbres, et ça c'est très important de pouvoir les financer également.
Merci beaucoup Serge Zaka d'être venu à ce micro. Je renvoie sur votre livre « Orage sur le climat ». C'est sorti l'année dernière aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Merci également à Louise Cognard qui a préparé aujourd'hui ce dossier, Titouan Labarre à la technique, et à Mazir Amaïdine Guest qui réalisait cette émission.